attention, action!
Last year, Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
To miał rację. Ten, co leci, czekał w górach. Czy ten, co się ukorzył i służy?
Quatrième épisode de notre journal consacré au Arras Film Festival, à écouter sur PFM du lundi au vendredi vers 7h45, 12h45 et 18h15, mais aussi sur Radio Scarpe Sensé du lundi au vendredi également à 12h30 et 17h. Au sommaire aujourd'hui, dans quelques minutes, Joris de Radio Scarpe Sensé nous proposera d'écouter l'invité d'honneur Patrice Lecomte, qui était en conférence de presse lundi 11 novembre au village du Festival. On terminera par les rendez-vous ciné à ne pas manquer ce mercredi, et tout de suite, une chronique de Nico autour du film polonais Papusza.
Un film polonais en noir et blanc, 2h11, un problème de typographie sur les accents des sous-titres. Mec, cette séance s'annonce plus ou moins semi-difficile. Et pourtant, on plonge dès les premières minutes dans les belles images et l'histoire terrible de ce papusza. Papusza, ça veut dire poupée en langue tzigane. On suit une famille de la communauté tzigane de Pologne du début du siècle jusqu'à la fin des années 80, avec des allers-retours incessants entre les différentes époques. On vit la misère, on subit les pogroms et on se cache avec eux dans la forêt pour éviter les balles des nazis. On apprend surtout à connaître Bronisława, alias Papusza, jeune fille puis mère un peu comme les autres dans cette communauté, mais qui, elle, a appris à lire et développe des talents dans une forme de poésie simple. Et c'est la simplicité de sa poésie qui rend ses textes si magnifiques. Une fois repérée et publiée, elle est violemment rejetée par les siens. La beauté froide des scènes et des paysages, la dureté glaciale du destin des Roms en Pologne à travers ce XXe siècle tranche avec l'humour amer mais omniprésent et la musique du film. Au cœur de Papusza, c'est la question de la mémoire de ce peuple de culture orale qui est transparée. De superbes phrases témoignent et résument un peu le rapport des tziganes à la mémoire. J'ai retenu quelque chose comme « En langue tzigane, le mot est le même pour hier et aujourd'hui » ou encore quelque chose comme « Heureusement que les tziganes ne gardent pas les traces de leur passé, sinon ils seraient noyés par le chagrin ». Papusza, c'est clairement un excellent moment de ce Arras Film Festival édition 2013. Un film important à voir au moment où les discours anti-Roms fleurissent en Europe et en particulier en France, des comptoirs des bars jusqu'à l'Assemblée Nationale. Papusza à ne pas rater ce soir au Movida à 19h.
Patrice Lecomte donnait une conférence de presse lundi 11 novembre pour présenter son tout dernier film, Une promesse. Il était entre autres au micro de Joris Nassens de Radio Scarpe Sensé.
Après le magasin des suicides en 2012, Patrice Lecomte revient avec son nouveau film Une promesse. Coécrit avec Jérôme Tonnerre, ce film est l'adaptation de l'œuvre de Stefan Zweig, Le voyage dans le passé. Tourné en anglais, ce long métrage montre une histoire d'amour entre un jeune diplômé et la femme d'un patron. Avant de parler donc de son travail sur l'adaptation, Patrice Lecomte nous dit que son film est un hommage à la femme.
Le film a été montré au Festival de Toronto. Je savais que j'avais fait un film avec tous les guillemets du monde pour adultes, enfin pour les grandes personnes, pour les adultes que nous sommes, et pas pour les kids. Voyons. Et les retours après le Festival de Toronto, où c'était avec Venise la vraie première projection importante, officielle, devant du public et tout ça, les retours étaient des retours très féminins. C'est-à-dire que j'ai rencontré des femmes qui était touché, bouleversé, ému par le film. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de féminin dans ce film, et je le revendique, et j'en suis heureux, et j'en suis fier. Le roman de Zweig, c'est un roman qui a été publié à titre posthume, enfin c'est un manuscrit qu'on a retrouvé il y a quelques années, était un très court roman, ou une très longue nouvelle, appelez ça comme vous voudrez. Nul doute que, enfin je suis pas dans le secret des dieux, mais nul doute que s'il avait voulu que ce soit publié, il aurait retravaillé le manuscrit pour en faire vraiment un roman, ajouter lui-même des choses. Mais on a ajouté des choses qui nous semblaient être dans le droit fil des émotions de Zweig. Et j'ai toujours cette idée un peu absurde d'imaginer Zweig ou Georges Simenon quand j'avais fait Monsieur Lire, enfin ces auteurs que j'ai adaptés et qui sont partis là-haut. J'en réponds pas comme de moi-même, mais je pense que Zweig ne pourrait être que touché par les quelque chose qu'on a inventé autour de son univers. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris des libertés effarantes, mais on a complété son univers, je crois. Vous savez, quand vous fermez un livre, même si la fin de ce livre vous laisse sur une impression un petit peu comme ci, comme ça, pas d'une gaieté folle, ça n'est, avec tous les guillemets du monde encore une fois, qu'un livre. C'est-à-dire que c'est une affaire entre le livre et vous. Mais quand vous faites un film, ça s'adresse a priori à des gens qui sont nombreux dans une salle de cinéma. Et moi, je m'interdis le fait de laisser ces spectateurs sur une impression aussi pessimiste, quoi, désenchanté, et de dire voilà, le film est terminé, je vous ai bien plombé le moral, au revoir, et je peux pas faire ça. Donc j'ai laissé un petit coin de quelque chose d'un peu positif. De toute façon, on parle d'adaptation, donc on adopte et on adapte, et on en fait non pas qu'à notre tête pour aller faire le contraire de ce que propose l'auteur, mais il s'agit quand même de tirer les choses à soi. Il faut qu'à l'arrivée, le film ressemble autant à l'auteur du bouquin qu'au mec qui a fait le film. Il faut que ce soit une osmose, un partage, quelque chose. Et je ne suis pas loin de penser, d'ailleurs je le pense vraiment, que si le même livre, ce livre-là ou un autre, était confié à 10 réalisateurs, si ces 10 réalisateurs ont un peu de personnalité, ça devrait donner 10 films assez différents. Et la liberté que j'ai prise avec Zweig par rapport à la fin, j'assume ça complètement, parce que c'était pas un reproche que je fais à Zweig, mais j'aurais pas pu terminer comme ça.
Moi, dans votre film, donc, je remarque vraiment ce style. Il y a vraiment une élégance et une beauté aussi dans les dialogues. Et j'ai remarqué aussi, et c'est un parti pris, que votre caméra finalement est instable. Finalement, c'est un peu comme leur amour qui est instable.
Oui, ou comme moi-même. Non, je ne suis pas instable en fait. J'ai de la fantaisie, mais je suis plutôt stable. Mais je suis très touché que vous ayez remarqué ça, parce que tout au long du film, parce que Je filme moi-même, je cadre moi-même les films que je fais. Et donc cette instabilité de la caméra, c'est quelque chose non seulement que je revendique, mais que j'exécute physiquement moi-même. Et c'est vrai qu'en faisant ce film, film d'époque, costume, machin, etc., je me disais, si j'adopte un style trop installé, je vais faire un film de gardien de musée, je vais faire un film qui va être au service des sentiments, comme si les sentiments de ces deux-là étaient sur les rails de quelque chose. Et j'avais besoin, mais je suis vraiment enchanté que vous ayez été sensible à ça, j'ai eu besoin de filmer comme ça pour rendre physiquement, visuellement, cette fragilité des sentiments.
Cette poésie aussi dans les dialogues, ça me fait penser donc au mari de la coiffeuse, que j'ai vu récemment. Cette poésie aussi dans les images et dans le dialogue.
Il se trouve que Stefan Zweig, c'est vraiment un auteur merveilleux, parce que c'est pas un auteur qui dialogue beaucoup, enfin dans le texte. Le bouquin s'appelle pas Une promesse, ça s'appelle Le voyage dans le passé. Et dans Le voyage dans le passé, qui était un manuscrit inachevé, donc, puisque ça a été publié après sa mort, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Le manuscrit n'est pas très dialogué. Donc il a été sympathique, Zweig, parce qu'il nous a permis, avec Jérôme Tonnerre, d'inventer des dialogues que, même s'ils ne sont pas trop abondants, parce que je ne voulais pas faire un film très bavard, mais que se disent ces deux-là, enfin, ou ces trois-là, enfin, les personnages du film, et d'inventer des dialogues qui ne soient pas bavards, qui s'en tiennent à l'essentiel, et où ce qui est dit est aussi important que le non-dit, moi, je me sentais chez moi, quoi, voilà. Je suis attaché au cinéma... Je me compare pas, hein, mais je suis attaché au cinéma des grands cinéastes d'avant, c'est-à-dire les gens qui connaissaient le métier, qui savaient ce que c'est que de faire un film, les gens qui étaient vraiment des professionnels de la profession, les gens qui avaient une réflexion sur les films qu'ils faisaient. Il y en a encore quelques-uns, évidemment, et je n'ai pas du tout la volonté d'appartenir à une génération de jeunes cinéastes qui souvent sont... un peu perdu, maîtrise pas totalement l'art du cinéma, alors que le fait de penser de manière un peu intelligente et sensible et sensée au découpage, à pourquoi je fais un gros plan, pourquoi est-ce que là je... C'est captivant, ça. La grammaire du cinéma, l'exercice du cinéma, la mise en forme d'un film, c'est un machin, c'est étourdissant d'intérêt. Et c'est vrai que beaucoup de cinéastes, mais ça m'ennuie de parler comme ça, mais beaucoup de cinéastes ont non pas du mépris, mais du désintérêt pour le plaisir de la mise en forme. Et moi, je suis très attaché à ça, non comme un cinéaste de l'ancien temps. Tant pis pour moi.
Tourner en anglais avec des acteurs anglais, est-ce que ça veut dire que vous avez eu des difficultés à réaliser en France ?
Pas du tout, pardon. Parce que la production est française. Et quand on s'est posé la question avec la production de faire le film dans quelle langue, ça se passe donc en Allemagne en 1912. Au tout début, je me suis dit je vais tourner le film en allemand et en Allemagne. C'était aberrant. Je ne parle pas un mot de cette langue, un cinéaste français qui va faire un film en Allemagne, et puis quoi encore. Le faire en français était totalement frelaté, donc j'ai abandonné cette idée très vite. Et puis l'anglais était à portée de notre main comme cette langue universelle merveilleuse qui permet enfin, il y a des tas de films. Je me souviens du film de Cronenberg qui s'appelle The Unconscious Method, qui met en scène Jung et Freud. Il n'y a pas plus d'allemands et autrichiens que ces deux-là. Ils parlent anglais, ça va, on s'en fiche. Donc l'anglais est merveilleux pour ça. Et quand la production, les producteurs m'ont dit qu'ils sentaient qu'il fallait faire le film en anglais, moi j'ai acheté cette idée immédiatement. D'abord parce que je trouvais que c'était la seule solution possible, en effet. Et en plus parce que je me suis dit, je vais avoir la chance de travailler avec des acteurs anglais depuis le temps que j'en rêvais. Donc je ne me suis pas pris pour un cinéaste anglo-saxon parce qu'il faudrait que je sois un peu plus bilingue que je ne suis. Mais j'ai eu la chance de rencontrer les trois acteurs principaux de ce film qui sont des... J'ai travaillé avec des bons acteurs dans ma vie, hein, en France, mais là, franchement, ces trois-là m'ont étourdi de talent, de professionnalisme, de travail, de confiance, de générosité. Ils font le même métier, mais pas de la même manière.
On passe à l'agenda ciné du festival de ce mercredi. D'abord, un rendez-vous jeune public qui nous vient de Suède dans le cadre du festival des enfants Linéa dans le jardin de Monet, à voir à 14h au Cinémovida. Un film à ne pas manquer que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas encore vu, le long métrage indien de Ritesh Batra, The Lunchbox, une histoire romantique et décalée à déguster avec gourmandise. La séance se déroulera au Cinémovida à 14h. Courez prendre vos places, ça risque d'être vite complet. Une rencontre et signature avec Caryl Ferré, le prix Amila Maker 2009 pour son roman Zulu et de son adaptation à l'écran par Jérôme Salle. Ça se passe au village du festival à 18h et c'est en partenariat avec l'association Colère du Présent. La projection, elle, aura lieu à 21h15 à l'auditorium Artois Expo. Toujours à l'auditorium d'Artois Expo à 19h, un spectacle musical, Go West, une création de Jacques Cambra avec les professeurs et les élèves du conservatoire d'Arras. Et on termine cet agenda avec l'after musical qui sera consacré aujourd'hui au rock éthéré de Rhapsodia, à voir et à entendre au village du festival ce soir à partir de 23h. Clap de fin pour ce quatrième épisode autour du Arras Film Festival. Prochain rendez-vous dès demain vers 7h45, 12h45 et 18h15 sur PFM, mais aussi sur Radio Scarpe Sensée à 12h30 et 17h.